chers auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International. Ici Clément Tricot pour vous présenter votre émission La Ville en Pratique. Aujourd'hui, nous allons parler de génie civil avec la réouverture de la route Nanhang, l'une de ces trois routes majeures qui traversent Taïwan d'est en ouest, qui était fermée depuis 2009 à cause du passage du typhon Morakot. Des travaux qui ne sont pas des plus simples dans ces zones montagneuses, soumises à d'importants aléas naturels. On en parle un peu plus tout de suite. La route transversale Nanhang a été achevée et ouverte à la circulation en 1972. C'est l'une des trois principales routes qui traversent Taïwan sur l'axe est-ouest, et c'est une importante ligne de connexion entre Kaohsiung et Taidong. Cette route a cependant été fermée à la suite de la catastrophe naturelle, le passage du typhon Morakot, en 2009. Outre les tragiques pertes de plusieurs centaines de vies humaines, notamment de populations aborigènes, le typhon, ses vents et pluies ont engendré des glissements de terrain et des éboulements dévastateurs, détruisant des zones urbanisées et des infrastructures de transport. Cette année marque le 50e anniversaire de l'achèvement des travaux et de la première ouverture officielle au trafic de cette route. Cependant, elle a connu 13 ans de travaux environ depuis le passage du typhon Morakot et ne réouvre que de manière limitée au cours de ce mois. La route n'est d'ailleurs pas ouverte complètement puisqu'elle n'est pour le moment ouverte sur son intégralité que de 7h à 14h en dehors des mardis et des jeudis. Cet axe de circulation permet de traverser différents arrondissements peu visités en raison de leur éloignement et demandant normalement de repasser par de grandes villes comme Kaohsiung ou Pingdong. Les travaux de rénovation n'ont pas été simples dans cette région marquée par un climat difficile et des conditions géographiques qui le sont tout autant. Alors quand on parle de cette route, on parle de la route qui part de Tainan puis passe par les montagnes de Kaohsiung, traverse une partie du parc national du Yushan et passe par le col de la montagne Daguan à une altitude de 2722 mètres puis rejoint la route 20 vers Taidong, là aussi passant dans des montagnes et se dirigeant donc vers la côte est. Elle a été achevée et ouverte à la circulation en décembre 1972, on en parlait. A l'époque, il s'agissait encore d'une route en gravier, et ce n'est qu'en 1994 que l'enrobé bitumeux fut entièrement posé. Le terrible tremblement de terre 921 de 1999 a causé des dommages, puis en 2009, le typhon Morakot a fait tomber 3000 mm de pluie torrentielle en deux jours, ce qui a finalement endommagé 140 km de route. Par la suite, typhons et pluies torrentielles provoquées par des conditions météorologiques extrêmes se sont succédées, faisant que les montagnes et les forêts déjà méconnaissables ont continué à être ravagées par des coulées de boue et ont même interrompu donc le trafic sur cette route depuis 2009. Alors selon le Bureau général des autoroutes, en tout cas des routes, le gouvernement a investi 13 milliards de dollars taïwanais, soit environ 415 millions d'euros, pour réparer 23 ponts, 15 galeries par bloc, et d'autres portions de la route depuis le passage du typhon Morakot, mais parmi eux on peut citer les kilomètres 92 à 99 et aussi de 105 à 149 sur la ligne 20, sur la route 20 de Taïwan qui ont beaucoup souffert. L'un des responsables de la gestion routière, Chen Kejie, précisait d'ailleurs qu'un contrôle de la circulation sur les 44 kilomètres qui relient Meishan à Xiangyang, donc à savoir entre le kilomètre 105 et 149, sont mis en place lors de cette rouverture de la route. Une première portion de la route était praticable depuis janvier 2020 entre Tianqi et Meishan. Les dernières parties du chantier donc ont concerné le pont Mingbakelu endommagé l'été dernier par des fortes pluies. Zhang Zhengwei, un chef de section des travaux de Jiaxian, au sein donc du bureau des autoroutes, a rappelé qu'à 10h du matin le 7 août de l'an dernier, une section du pont Mingbakelu a été emportée par un flux de débris provenant du cours supérieur de la rivière Yusui.
À 13h17, de la terre et de la roche du cours supérieur de la rivière Usui se sont effondrés à grande échelle, et en un instant, les deux tabliers du pont Mingbakelu ont été complètement emportés. À 15h, deux heures plus tard, ils s'étaient envasés de 10 mètres. À minuit, il y a eu un autre tremblement de terre. Quand je suis arrivé le matin, je ne pouvais plus du tout voir où se trouvait cet endroit. Le lit de la rivière s'était envasé de près de 20 mètres. Selon les estimations, plus de 11 millions de mètres cubes de terre et de sable se sont écoulés dans le cours supérieur de la rivière Usui et plus de 2 millions de mètres cubes de terre et de sable se sont accumulés dans cet estuaire.
Sai Jiabao, un directeur d'une société de construction, expliquait lui qu'il a assisté à la destruction du pont Mingbakelu par les débris provenant de la rivière Usui, qu'il l'avait photographié et il avait déclaré qu'il travaillait donc dans le domaine du dragage depuis plus de 20 ans et que depuis le typhon Morakot, il aidait à réparer les dégâts sur cette route. Il explique que bien qu'il ait souvent assisté à des coulées de débris, c'était la première fois qu'il rencontrait une situation telle que un pont était carrément emporté. Ces incidents rappellent la difficulté aussi pour les responsables, dans le génie civil et la construction des routes, de composer donc avec ces aléas naturels, climatiques, mais aussi les caractéristiques géographiques propres à cette zone, et aussi on pourrait dire à Taïwan. Cette nature difficile à maîtriser, elle aura toujours le dessus, et c'est donc à l'homme de tenter de s'insérer dans ces milieux, et c'est souvent pas l'inverse. Et sur les lieux d'ailleurs, on pouvait encore voir le morceau du pont Mingba Kelu qui s'est décroché. Alors c'est assez impressionnant, je vous invite à aller voir les photos que je vais mettre sur la page de l'émission aussi, pour voir ce gros morceau de béton qui repose au milieu des pierres, plusieurs mètres plus bas. Souvent on imagine rarement de pouvoir voir comme ça la force de la nature, et comme quoi on est bien peu de choses et que nos constructions le sont aussi. Aujourd'hui on peut voir donc un pont en acier de 96 mètres de long, avec un total de 8 piliers qui a été achevé en février de cette année, pour remplacer la route d'accès temporairement. En plus d'être 20 mètres plus haut que le pont original, Mingba Kelu, la fondation des piles a été épaissie, des pieux de protection ont été ajoutés en amont et un éclairage nocturne ainsi qu'une surveillance par caméra ont été mis en place en amont de la rivière Yusui, ce qui a considérablement amélioré la capacité de réaction à ces aléas naturels, on renforce la prévision. Il est à espérer qu'une évacuation plus sûre pourra être réalisée face aux coulées de terre et de roches qui risquent donc toujours de se reproduire, ça c'est impossible à éviter.
Parce que si nous marchons le long de cette route d'accès au lit de la rivière, s'il y a le moindre signe que la terre et les pierres tombent, notre temps pour réagir peut être inférieur à 1 ou 2 minutes. Cependant, si notre pont temporaire est bien fait, on devrait avoir au moins 5 à 6 minutes, de sorte que tous les véhicules et les personnes puissent être évacués en toute sécurité. C'est le principal objectif de ce pont temporaire en acier. En fait, le bureau des autoroutes respecte toujours ce principe en construction. Il peut y avoir des dommages à nos structures, mais nous ne voulons pas qu'une vie humaine soit à nouveau perdue.
Il faut noter que l'an dernier, une femme, Shei Yijen, une représentante de l'arrondissement de Taoyuan à Kaohsiung, fut tragiquement emportée par une de ces coulées de boue alors qu'elle se rendait sur le terrain. Cet accident a largement soutenu les nouvelles mesures de prévention mises en place aujourd'hui. Les travaux se sont poursuivis sur les différentes sections endommagées. On ne va pas pouvoir parler de tous les travaux en détail, mais ils ont posé aux équipes des challenges forcément complexes. Ces tragédies sont aussi des occasions quelque peu forcées pour les ingénieurs et les responsables des travaux de mieux gérer les questions de sécurité ou à prendre en compte davantage les conditions naturelles des terrains. Sur place, Wang Qingxiong, l'un des responsables des travaux, explique à RTI que pour réparer la route après la catastrophe, il faut d'abord redécouvrir aussi l'aspect original de l'ancienne route et étudier les écoulements de l'eau. Il demande aux ingénieurs de travailler par paire pour plus de sécurité, et selon lui, les catastrophes dans les montagnes sont quasiment toutes liées à l'eau. Tant que l'eau est correctement détournée ou bloquée, les catastrophes en montagne peuvent être réduites. Mais alors je préfère quand même aussi le souligner, c'est difficile de contrôler la nature et il faut toujours envisager des solutions de secours, mais aussi des dispositifs de prévention. Observer des images, des conditions et des lieux de travail de ces hommes laisse aussi une marque dans l'esprit. Je vous invite encore une fois à aller sur la page de l'émission, je vais mettre des photos. Vous allez voir, les conditions et les lieux de travail sont assez marquants. Et dans ces photos, l'homme paraît bien peu de choses dans l'immensité des montagnes et des paysages. Et les installations humaines dénotent forcément avec le paysage environnement. Ces routes et leurs installations, eh bien, elles illustrent la rencontre de deux mondes, c'est marquant sur les images, celui de l'homme et de la nature qui ont parfois un peu du mal à cohabiter ou à se comprendre. Chung Jung-wei, alors, qui nous expliquait à RTI que depuis 20 ans, il est témoin de l'histoire de cette route, avant mais aussi après ses traumatismes, il explique lorsqu'il est venu travailler pour la première fois sur cette route, qu'il a dit à son chef que le paysage était assez beau et que c'était vraiment un plaisir pour lui d'aller travailler sur ce terrain. Mais son chef lui a dit qu'après 2 ou 3 ans, tout ce que les hommes finissent par voir, eh bien, c'est le travail. Il explique aussi que travailler sur ces routes nécessite d'affronter des conditions difficiles. Physiquement, la différence de température entre son lieu d'habitation et de travail, eh bien, il explique que ça peut dépasser 16 degrés d'écart. Il explique aussi qu'il y a parfois des conditions difficiles à cause du froid, des vents, des pluies, etc. Et que le temps pour se rendre aussi sur le site l'éloigne parfois de sa famille, et que les conditions sont assez éprouvantes aussi moralement et socialement. Ces conditions de travail d'ailleurs ont découragé de nombreux employés qui ont finalement décidé de quitter ces chantiers au cours des derniers mois. On peut aussi citer des jeunes diplômés qui ont aussi refusé d'être assignés à ces chantiers du fait des conditions de travail difficiles et qui ont préféré carrément abandonner. en rappelant que les projets d'infrastructure ne peuvent pas uniquement se décider sur plan, mais qu'il faut aussi accompagner des conditions humaines et savoir gérer ses employés sur des questions sociales. Si vous passez un de ces jours sur ces routes, alors je vous invite à avoir une pensée pour ces employés qui ont dû affronter ces conditions terribles pour ouvrir une voie d'accès dans la montagne et relier donc une partie de l'est à l'ouest de Taïwan. Et je vous invite aussi à vous arrêter un temps pour observer un peu et réfléchir un peu à ces conditions de paysage et à ces aléas climatiques qui ont forcément marqué l'histoire de ces lieux. Alors on va finir avec Cheng Zhengwei qui abordait aussi une question des tracés de ces infrastructures, mais qui évoquait surtout pour moi l'importance du dialogue et d'une relation à construire avec le territoire et le milieu naturel quand on aménage des infrastructures de transport.
Parce que nous pensons que la route de Nanheng devrait aussi faire partie de la forêt et de la montagne. Cet arbre est là depuis plus de 500 ou 600 ans, alors nous préférons sacrifier le tracé de la route pour éviter ce précieux cyprès qui a plus de 500 ou 600 ans. Sinon, bien sûr, la forme de la ligne ici est la meilleure. Mais si nous allons par là, cet arbre risque de disparaître. Parce que peu importe la grandeur du pont, il ne durera que 100 ans au maximum. Alors que les arbres sont là depuis 500 ou 600 ans et ils sont maîtres de cette forêt de la montagne de Nanheng.
Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que avoir abordé cette question de la rénovation, de la réouverture de cette route et des difficultés à aménager des routes dans des conditions climatiques et des caractéristiques géographiques assez difficiles, eh bien, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre épisode de La Ville en pratique, toujours présenté par moi-même, Clément Tricot. Et d'ici là, bien entendu, portez-vous bien.